La chemise à rayures.
Invité, reportage
sur Radio Centrafrique.
Cécile Blanche, bonjour.
Bonjour.
Vous donnez une conférence au lieu dit, jeudi 10 mai à 20h30. Au lieu dit, donc, une conférence qui a pour titre « Les 101 malheurs de l'abeille ». D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Eh bien, écoutez, moi, je suis donc vétérinaire et j'ai fait la plupart de ma carrière dans la recherche, d'abord à l'INSERM et ensuite au ministère de l'Agriculture, dans une structure qui a changé 3 fois de dénomination. C'était d'abord les laboratoires nationaux, après ça a été le Centre national d'études vétérinaires et ensuite ça a été l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Et donc j'ai dirigé pendant 10 ans un laboratoire qui s'occupait spécifiquement des moutons, des chèvres et des abeilles.
Pourquoi cet intérêt pour les abeilles ?
Alors les abeilles, d'abord c'est un monde fascinant. Et ensuite, ça a permis, moi, j'étais très préoccupée par les problèmes d'environnement depuis très longtemps. Et grâce à l'abeille et l'impact que les pesticides et les modifications de l'environnement ont sur l'abeille, ça m'a permis d'étudier tous les phénomènes parce que j'ai mené 2 enquêtes épidémiologiques sur le terrain qui m'ont permis de mettre en évidence, en particulier en 87, que tout était pollué en pesticides, ce qui n'était pas quelque chose de dessus ou tout au moins de dit. Donc on a mis en évidence cela au laboratoire. Et puis j'ai refait une enquête 10 ans après pour essayer d'évaluer les différents facteurs qui pouvaient donc influer sur la santé de l'abeille avec ces problèmes de disparition donc, qui sont apparus en France dans les années 80, au début des années 80. Et disons que les pesticides sont toujours là. C'est un facteur de risque important. Mais il y a aussi la baisse de la biodiversité qui fait qu'il y a un appauvrissement en pollen. Voilà, hein, je crois que c'est de fait le changement de végétation, l'artificialisation et l'utilisation de la chimie de façon intensive.
Dans cette conférence, vous allez aborder donc la question de l'abeille sous différents angles.
Alors, ce qui est intéressant, parce qu'on parle de l'abeille donc, très fréquemment, et ce qui est intéressant de savoir, c'est comment l'abeille réagit dans son environnement. Quels sont les mécanismes, quelles sont ses armes de résistance. Et je crois que c'est important de les connaître, hein, en les exposant simplement. Hein, il ne s'agit pas de faire un exposé scientifique. Non, c'est pour se rendre compte qu'on puisse dire effectivement qu'on comprenne pourquoi l'abeille dans notre milieu artificialisé souffre, et souffre beaucoup comme nous tous d'ailleurs.
L'homme peut intervenir ?
Bien sûr, l'homme peut modifier en changeant ses habitudes d'agriculture, c'est-à-dire en adoptant une agroécologie ou agriculture biologique aussi, hein, sans label. On peut dire agriculture biologique avec label ou agroécologie sans label, qui est une agriculture qui n'utilise pas de pesticides, qui n'utilise pas d'intrants et qui favorise la biodiversité et donc favorise la bonne santé de l'abeille. Ça, c'est entre nos mains. Hein. Il est certain que c'est entre nos mains. Et il y a aussi un autre facteur qui est mal étudié, mais connaissant la façon de fonctionner de l'abeille, la façon de se diriger, on a de grosses inquiétudes avec les ondes électromagnétiques dont les réseaux se densifient et s'intensifient de plus en plus. Et c'est une réelle préoccupation.
Par rapport aux pesticides, le gouvernement pourrait intervenir ?
Alors, le gouvernement peut intervenir, bien sûr. Il y a toute une série de contrôles, soi-disant. Hein. Moi, j'ai fait partie pendant longtemps des commissions, des groupes de travail chargés de donner des AMM, d'évaluer les pesticides pour l'abeille. On peut, bien évidemment, se passer. Le gouvernement peut agir, seulement le problème, c'est que ce sont les firmes phytosanitaires, les firmes agroalimentaires, les firmes chimiques qui sont très puissantes, qui sont des lobbies qui sont partout, partout, dans tous les groupes de travail, partout, et qui appuient et qui font le forcing pour que les choses continuent à aller pour eux, quoi.
Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose ?
Eh bien, écoutez, non, voilà. Hein, moi, je proposais cette conférence parce que j'ai une expérience qui est encore valable, bien que je sois à la retraite depuis 10 ans. Mais malheureusement, les choses n'avancent pas très vite. Donc, voilà, je voulais faire part de mon expérience.
Et interpeller, donc, les citoyens.
Et interpeller les citoyens et éventuellement les élus.
Donc, Cécile Blanche, on donne rendez-vous aux auditeurs au lieu-dit, jeudi 10 mai à 20h30, pour les 101 malheurs de l'abeille.
Metteur en scène du Petit Chaton Rouge, Sonia Caudan a fait beaucoup de télé, de séries télé, de cinéma et aussi avant tout du théâtre. Elle nous parle de ces différents types de théâtre qu'elle a fait.
Du théâtre que l'on dit privé, du théâtre dirigé par Jean-Claude Brialy, donc avec tout ce que ça sous-entend. C'était une pièce de Sacha Guitry, donc ce type de théâtre un petit peu, je mets des gros guillemets, mais je pense que des gens verront bien de quoi il s'agit, théâtre un peu bourgeois comme ça. Et puis du théâtre aussi subventionné, plus... radical, c'est beaucoup dire, mais on va dire plus moderne, plus contemporain. Avec des gens comme Pierre Fauvio à Lille, à Lyon également. Et puis alors carrément du théâtre expérimental avec un auteur et comédien que je suis depuis des années, enfin avec qui je travaille depuis des années, que j'ai mis en scène également, qui me met également en scène, qui s'appelle David Noir. Alors là, quand je dis théâtre expérimental, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui travaille vraiment sur... du trash, enfin oui, il peut y avoir des éléments trash, mais également des questionnements de société, qui n'hésite pas du tout à aller dans la provocation, où on s'amuse aussi beaucoup, il peut y avoir de la musique, de la vidéo, où il éclate un peu la forme. Donc ça, c'est quelqu'un vraiment avec qui je travaille depuis plus de 10 ans maintenant et avec qui je m'éclate beaucoup scéniquement. Après, la compagnie Les Animaux du Zoo, c'est une compagnie que j'ai montée en 2007 autour d'un premier projet qui s'appelait Vie et mort de Cathy Olson, qui est un texte non théâtral, en fait, qui est une nouvelle. Enfin, une nouvelle, oui. C'est un genre de journal de bord, on va dire, d'une femme qui attend son exécution dans les couloirs de la mort aux États-Unis. Donc un sujet pas très drôle s'il en est, qui a été écrit par un auteur assez rock'n'roll, assez punk américain, qui lui n'est pas non plus un auteur très connu, qui a plutôt joué dans des groupes de musique punk, etc., et qui s'est intéressé au sujet de la peine de mort aux États-Unis. Il savait de quoi il parlait puisque aux États-Unis la peine de mort est toujours d'actualité. Et je me suis intéressée à ce sujet et particulièrement à cette écriture qui n'était pas une écriture théâtrale. J'avais déjà monté avec une autre compagnie avant un texte qui n'était pas une écriture théâtrale non plus, qui était le journal d'un fou de Nicolas Gogol, qui a souvent été monté au théâtre mais qui à l'origine n'est pas une écriture théâtrale. C'est vrai que j'aime beaucoup ces écritures qui ne sont pas a priori destinées à la scène. Et qu'est-ce qu'on en fait du coup ? Qu'est-ce qu'on fait de ces écritures plus basiques, plus quotidiennes peut-être ? Ça m'a toujours intéressée. Qu'est-ce qu'on fait avec cette chose a priori simple et comment on traite cette simplicité sur scène ? Simple entre guillemets. Donc le premier spectacle de la compagnie Les Animaux du Zoo s'appelait Vie et mort de Cathy Olson. Et j'avais aussi envie, à côté de ce spectacle, de monter des débats publics, avec le public et avec des associations abolitionnistes, alors que ce soit la Ligue des droits de l'homme, que ce soit Amnesty International, d'associations aussi qui écrivaient à des condamnés à mort. C'est quelque chose qui m'intéressait particulièrement en France. Alors en plus, ça s'est fait à un moment donné où c'était un anniversaire important de l'abolition de la peine de mort en France. Aussi pour diffuser l'info auprès des jeunes qui ne savent pas forcément qu'il n'y a pas si longtemps on coupait encore la tête de certaines personnes en France au nom de la justice. Donc ça m'intéressait d'avoir ces discussions-là aussi avec les spectateurs après le spectacle. Tout comme là, le Petit Chaton Rouge m'intéresse également de faire des débats, mais plus aussi, c'est pas un spectacle spécialement jeune public, mais c'est vrai que le but est et aussi beaucoup de le montrer à une population adolescente. Alors pourquoi ? Alors déjà, ce spectacle, Petit Château Rouge, de quoi il parle ? C'est un spectacle autour du premier rapport sexuel. Je me suis rendu compte, comme beaucoup de gens peuvent se rendre compte d'ailleurs, qu'on est dans une société sursexualisée, où on a l'impression que tout le monde est absolument à l'aise avec le sexe, ce qui est sans doute effectivement le cas par rapport, je ne sais pas, à certaines années plus complexes à ce niveau-là, mais où malgré tout, on est à l'aise avec le sexe quand on l'a pratiqué, quand on appartient à un certain type de population, quand voilà. Mais avant notre première fois, alors même si on parle beaucoup de ça avec les camarades, etc., et qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs pour en parler, que ce soit les médecins, que ce soit dans les lycées, les cours simplement en SVT. On a l'impression qu'avec les parents maintenant, le dialogue se fait plus aisément autour des sujets dits tabous comme celui-là. Et au final, quand on regarde les chiffres, ils peuvent être de plus en plus inquiétants, que ce soit en termes de maladies sexuellement transmissibles, en termes d'interruption volontaire de grossesse chez les jeunes filles, en termes de non-protection en fait, des adolescents autour de leur première fois. Et on se dit, mais c'est pas possible, avec l'afflux d'informations qu'il y a sur le sujet, comment est-ce possible ? Alors donc moi je me disais, mais je ne sais pas comment c'est possible, puisqu'effectivement dans les écoles on a l'air d'en parler de plus en plus, comme je vous disais, le dialogue se fait de plus en plus avec les parents, comment ça se fait qu'au final les chiffres sont, en tout cas ne baissent pas quoi. Et je me disais, mais il y a quelque chose qui manque quoi, parce qu'effectivement j'avais en tout cas en parlant avec des adolescents, souvent me revenait l'information que bah oui, non mais avec les parents, c'est sûrement pas avec les parents qu'on a envie d'en parler. Ce qui peut être logique. Au moment de l'adolescence, on a envie justement de couper avec les parents. C'est pas forcément avec eux qu'on a envie de parler de notre intimité, particulièrement celle-là. Au collège ou au lycée, on en parle, mais de manière toujours un peu provocante. On a toujours un peu peur d'être la dernière roue du carrosse en termes d'informations, etc. On a l'impression d'être surinformé avec Internet. Tous les gamins maintenant peuvent avoir accès à des sites pornographiques, etc. très facilement. Est-ce que c'est là-dedans qu'il y a réellement de l'info concernant le sexe ? Je ne sais pas. En tout cas, du sexe tel que peuvent le vivre des adolescents lors de leur première fois, ça j'en sais encore moins. Voilà. Y a effectivement énormément de choses concernant la sexualité débridée, voilà. Mais une sexualité affirmée de gens qui vivent librement leur sexualité, ce qui n'est pas forcément le cas des adolescents quand ils commencent. Donc je me disais, tiens, j'avais envie de m'intéresser à ce sujet-là.
Comment l'avez-vous préparé ?
Alors, j'ai eu envie de partir de témoignages. Alors au départ, j'ai eu envie de travailler d'abord sur le point de vue féminin et puis ensuite sur le point de vue masculin, parce que le vécu de la première relation sexuelle du point de vue féminin n'a rien à voir avec le point de vue masculin. D'abord les attentes d'une part et d'autre. Les attentes sont très différentes. Le ressenti est aussi très différent. Le discours autour de la jouissance, est-ce qu'il y a jouissance, est-ce qu'il n'y a pas jouissance, est-ce qu'on a mal, est-ce qu'on n'a pas mal. Les filles ont d'autres types d'angoisses, est-ce que je vais tomber enceinte, est-ce que je vais saigner, est-ce que je vais avoir mal, est-ce qu'il faut être amoureuse, alors la protection à l'égard des maladies sexuellement transmissibles. Voilà, tout ça est très différent si on est un garçon ou si on est une fille. Et donc j'ai eu envie d'abord de travailler sur le point de vue féminin. Et en collectant, donc en lançant un appel à témoignages via Internet à une large population féminine de tous les âges, en demandant donc des témoignages anonymes pour que la parole puisse se faire plus aisément. Et du coup, pour essayer aussi de collecter assez largement sur la population. Alors à la lecture des témoignages que j'ai reçus, j'ai reçu donc par la poste des témoignages, j'étais extrêmement émue par les témoignages que j'ai reçus, mais je me suis rendu compte par des détails de musique, de marque de moto, de marque d'habits, de pratique, de manière de voir les choses, enfin voilà, vous vous rendez compte que vous avez... que c'est une personne d'une telle génération plutôt qui vous a envoyé le témoignage. Et je me suis rendu compte que finalement j'avais pas tant de jeunes qui m'avaient envoyer des témoignages. Alors du coup, je suis... Et puis aussi parce que j'avais envie de travailler sur une écriture... Envie de côtoyer ça à l'écriture internet, c'est-à-dire aller sur ces forums internet où les jeunes... Alors là, pour le coup, là, les jeunes dialoguent énormément entre eux autour de ces sujets-là. Mais il y a moult forums, un nombre incalculable de questions qui sont posées autour de la première fois, autour des rapports sexuels globalement, mais autour de la première fois notamment, de est-ce que je vais avoir mal et qu'est-ce que vous feriez vous, est-ce que... Et ils se répondent les uns les autres. Alors il y a des modérateurs qui viennent apporter un peu quelquefois des précisions techniques, si je puis dire, ou en tout cas des informations plus scientifiques ou médicales, ou voilà. Et en même temps, ça se lâche, les adolescents peuvent vraiment parler de sexe avec des pseudos, avec des... Voilà. Mais en même temps, ils posent vraiment les questions qu'ils ont à cœur, quoi, qui sont très difficiles à, quelquefois, à dire, bah voilà, à des parents, c'est compliqué, à une infirmière scolaire, c'est possible, mais on a toujours peur de qui va être au courant d'eux. Les copines ou les copains, c'est pas évident non plus. Là, dans un anonymat le plus total, il est possible d'aborder des sujets extrêmement intimes. Donc, j'ai voulu aussi travailler avec ces témoignages-là. Voilà, et puis, donc ça, c'est les bases d'écriture avec lesquelles j'ai travaillé. Et puis, j'ai voulu aussi, ce qui est le cas, dans mon spectacle, il y a une partie qui soit toujours ouverte à de nouveaux témoignages, toujours. C'est-à-dire que le spectacle, qui j'espère va tourner, il y a une partie du spectacle qui est amenée à changer continuellement. C'est-à-dire que l'appel à témoignage est toujours ouvert. Et on va donner une adresse internet où les jeunes, les moins jeunes, ceux qui veulent, peuvent envoyer leur témoignage de première fois ou de leur angoisse sur la première fois ou de leur plaisir de la première fois, ce qu'ils veulent autour de la première fois. Et puis, moi, je continuerai à sélectionner et, pour cette partie du spectacle, toujours nourrir le spectacle avec des nouveaux témoignages. Parce que je me suis rendu compte en le fabriquant, ce spectacle, que il me manquait tout un tas de témoignages, que je n'avais pas de témoignages de, je sais pas, je vais vous dire comme ça au hasard, de femme excisée, d'une femme musulmane, d'une... Que pour l'instant, je n'en avais pas et que j'avais envie de recevoir toutes ces possibles-là. En tout cas, que j'avais pas envie de fermer le spectacle à un moment donné précis parce que je n'avais reçu que ça. Donc voilà, je voulais que ça reste ouvert.
Comment passe-t-on d'une série de témoignages à une pièce ?
Alors, voilà, moi je voulais justement garder... J'ai réfléchi beaucoup à la dramaturgie que je pouvais utiliser pour cette pièce. Et puis j'ai aussi, comme j'avais très envie de m'adresser à une population adolescente également, j'ai regardé aussi comment ils fonctionnaient aujourd'hui. Parce que les adolescents d'aujourd'hui ne sont absolument pas les adolescents d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, un ado, il peut passer de son smartphone à son ordi là, puis aller boire un café avec ses copains, puis... Ça va très très vite. C'est un monde qui va très vite, même moi qui suis... Enfin, je suis quand même éloignée de l'adolescence aujourd'hui, mais je m'aperçois que je n'ai pas du tout les mêmes codes de communication, les mêmes... Là, je vois bien, parce qu'on a déjà joué le spectacle devant des professionnels qui nous ont interpellés sur la forme en disant « Mais est-ce qu'on va bien comprendre comment ça passe de l'un à l'autre ?» Les gamins ne se posent absolument pas cette question-là. Ils switchent extrêmement vite. Ça, c'est des préoccupations d'adultes à la ramasse déjà. J'ai envie de dire, moi déjà j'ai l'impression d'être une vieille conne, hein, comment je parle des choses, parce que quand vous parlez avec les ados, vous vous rendez compte que vous êtes déjà très loin derrière, et eux ils sont très très loin devant, et que de toute façon tout ce qu'on met en place pour répondre à leurs questionnements, c'est déjà bien à la ramasse. Donc voilà, donc alors je me disais, bon, de toute façon je risque de faire un spectacle, voilà, il ne s'agit pas de faire un spectacle d'adolescent, je ne suis plus adolescente, mais avec une forme qui soit pas forcément un début, un milieu, une fin, avec une dramaturgie qui s'explique de A à Z. J'avais envie de quelque chose qui puisse passer de l'un à l'autre. Et puis, j'avais envie aussi d'utiliser à l'intérieur de mon spectacle des formes, des outils à notre disposition, nous, êtres scéniques, comme la danse, comme la vidéo, comme la chanson, comme le playback, qu'on utilise beaucoup, j'utilise beaucoup de chansons, qu'on puisse passer de l'un à l'autre, le conte, puisqu'il y a un conte à un moment donné du spectacle complètement farfelu, et que ça ne me pose pas de problème de switcher de l'un à l'autre, j'ai pas nécessairement l'impression que ça pose un problème au public adolescent, j'ai l'impression que ça en pose davantage au public adulte. Mais voilà, j'espère qu'il y a de la place pour toutes les compréhensions, en tout cas, j'espère quand même.
Alors sur scène, vous n'êtes pas toute seule, il y a José Antonio Pereira. Ça se passe comment? C'est un dialogue? Comment c'est organisé?
Alors, non, ça n'est pas un dialogue, justement. On a travaillé avec... on a choisi plusieurs témoignages qu'on a travaillé. Alors, certains, oui, plus ou moins en dialogue, mais je vous ai dit, c'est... En fait, le spectacle... On va dire que c'est pas mal une succession de moments où il peut y avoir un témoignage, puis tout d'un coup il va y avoir une chorégraphie. Alors nous ne sommes pas du tout des danseurs contemporains, mais justement ce qui nous amusait, José et moi là-dedans, c'était de se mettre, nous aussi, dans une première fois, dans une idée, dans une sensation de, on n'est pas du tout des techniciens de la danse. Alors ça va, on n'est pas non plus des handicapés là-dessus, mais c'est pas du tout notre spécialité, la danse. Donc on avait envie qu'il y ait du physique sur scène, on n'allait pas aborder la première fois sans que nos corps existent sur scène. On n'avait pas envie, on n'allait pas mimer des actes sexuels non plus, donc on avait envie de transfigurer ça d'une certaine manière. Et la danse nous plaisait bien aussi parce que dans la danse, il y a quelque chose de potentiellement érotique, simplement le fait de voir des corps bouger. Moi, je voulais qu'il y ait un corps d'homme et un corps de femme. Et puis, la danse nous a permis de vivre cette chose, enfin, érotique, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, que le corps soit présent sur scène avec cette fragilité-là, car nous ne sommes pas des danseurs. Donc du coup, on a abordé le truc sans être des grands spécialistes de ça, et avec nos maladresses, et avec justement l'envie, parce que quand on danse sur scène, alors il y a plusieurs parties danseurs, enfin, c'est des courts moments, hein, parce que je vous dis, on n'est pas des grands spécialistes, mais notamment un moment où on essaie d'être dans un espèce de kamasutra raté, quoi, comme on peut être, je pense, au cours d'un premier rapport sexuel. Et voilà, donc on s'est amusé avec ça. Mais il y a également donc du playback. Pourquoi? Alors, la chanson, comment je l'ai traitée? Moi, ce qui m'intéressait dans la musique, c'est que la musique et la chanson, particulièrement la chanson de variété, est très porteuse émotionnellement aussi. Et souvent, quand on se rappelle de ses premières booms, de ses premières sorties en boîte aujourd'hui, enfin, je ne sais pas, ces moments, la chanson est très porteuse d'émotions, vecteur de choses qu'on ne peut pas dire. On peut s'envoyer, se faire passer pour dire des choses. Ce qui me permettait pour moi de travailler aussi l'intergénérationnel au sein du spectacle. Pas de manière... j'avais pas envie d'être explicative. Donc c'est vrai que j'ai plutôt tendance, moi, à juxtaposer les choses, que ça va être une chanson, un playback, après une... Parce que j'ai pas envie d'être dans une explication là-dedans, puis j'ai envie d'être dans un cut comme ça que vivent pas mal les ados aujourd'hui, dans lequel ils sont. Tous ces playbacks, enfin ces playbacks, il n'y en a pas non plus énormément, mais en tout cas tous ces morceaux musicaux, on va dire qu'ils s'étalent entre les années 40, en gros, on va dire les grands-parents des jeunes d'aujourd'hui, voire les arrière-grands-parents des jeunes d'aujourd'hui, jusqu'à des morceaux d'aujourd'hui. Il y a, je ne sais pas, peut-être une dizaine de morceaux en tout dans ce spectacle, ouais, 8-10 morceaux, mais qui sont des morceaux autour de la première fois ou du petit chaperon rouge, parce que j'ai travaillé aussi avec le conte du petit chaperon rouge, c'est un autre élément important du spectacle, parce que ces chansons évoquent aussi des époques. Alors il va y avoir un morceau des années 40, un morceau des années 50, un morceau des années 60. Le morceau des années 60 est un morceau de Johnny Hallyday qui est Alors aujourd'hui, évidemment, on écoute ça avec énormément de sourire en se disant « mais c'est pas possible d'être aussi ringard à l'égard de la gente féminine, quoi ». Mais voilà, ça témoigne aussi d'une époque, et musicalement évidemment, ça témoigne d'une époque musicalement, mais aussi de l'inconscient collectif d'une époque, un morceau des années 70, un morceau des années 80, donc là on est dans Jeanne Masse, toute première fois, et voilà, et comment aujourd'hui, voilà, un morceau d'aujourd'hui, c'est un morceau en l'occurrence d'une jeune femme qui s'appelle Ariane Moffat, qui est une artiste québécoise que je trouve absolument admirable, et qui, elle, parle, qui dit « je veux faire ça avec ton corps, je veux faire ça », et là, on est complètement dans une autre position, c'est-à-dire c'est la fille qui parle, qui dit ce qu'elle va faire avec le corps de l'autre, on ne sait pas d'ailleurs si c'est un garçon ou une fille, il y a cette ouverture, parce que moi, je n'ai pas envie seulement de parler de la première fois hétérosexuelle, évidemment, en grande majorité, les premières fois sont des premières fois hétérosexuelles, mais voilà, il y a des premières fois homosexuelles, il y a tout un tas de première fois. On peut, au cours de sa vie, avoir plusieurs premières fois. Une première fois homosexuelle, une première fois hétérosexuelle, une première fois avec plusieurs personnes. On peut avoir plein de premières fois dans sa vie. Donc, moi, j'avais envie que ça reste ouvert aussi, à ce niveau-là, et de surtout pas, j'espère, en tout cas, être morale, en tout cas. Enfin, s'il y a une moralité, c'est de respecter la multiplicité là-dedans.
Ce spectacle a pour partenaire le CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, dans le cadre de l'action menée contre les violences sexuelles. Sonia Koudan a travaillé avec des lycéennes de Sainte-Afrique.
J'ai envie de travailler aussi beaucoup autour du spectacle, de travailler en atelier avec les adolescents. Les premiers ateliers qu'on a faits étaient ici, à Sainte-Afrique, avec des élèves du lycée Lacazotte, des élèves de première, enfin différentes classes de première. Ça s'est super bien passé. Vraiment, on a été ravie, vraiment, vraiment ravie. Surtout que le thème qui avait été choisi, nous, on propose plusieurs types d'ateliers. Des ateliers autour des contes, des ateliers autour des chansons, des ateliers autour de l'écriture anonyme, des ateliers autour du... Voilà, il y a tout un tas de types d'ateliers. Et puis là, le lycée Lacazotte avait choisi un atelier autour du conte. Alors, aborder le conte avec des jeunes personnes de 16-17 ans, c'est pas forcément évident. Je veux dire, le conte, c'est quelque chose qui, a priori, pour eux, est un truc pour les gamins, quoi. C'est un peu Walt Disney, qu'est-ce que c'est que ce truc de naze, quand même, hein. Et donc, ils ont vraiment super joué le jeu, quoi. C'est-à-dire, nous, on leur a proposé, parce que nous, dans notre spectacle, on a un conte complètement déjanté. C'est-à-dire qu'on est parti du conte du petit chaperon rouge qui est complètement inversé. Donc, c'est l'histoire d'un petit loup noir. Le personnage un peu maléfique dans le conte, justement, c'est la fille. C'est le petit chaperon rouge qui, en fait, est déguisé en chaboté, mais qui, c'est complètement flingué à la Shrek, si vous voulez, voilà. Et l'idée, c'était de proposer à ces adolescents également de, eux, réécrire des contes à partir des contes ancestraux qu'ils connaissent forcément, parce que c'est une matière littéraire, le conte qu'on connaît tous, même quand là, je me souviens, on a travaillé avec des élèves de la Cazotte, notamment une classe avec où il y avait beaucoup de garçons, et quand on leur dit « vous connaissez tous le conte de Cendrillon ?» Non. Aucun connaissait le conte de Cendrillon, évidemment. Donc je leur dis, c'est pas grave, je me suis pas démontée. Je leur dis, je vais vous le raconter. Et puis je leur ai raconté à une Cendrillon d'aujourd'hui, quoi. Et évidemment, en faisant des erreurs. Et quand vous faites des erreurs, il y a toujours un gamin qui va dire, maintenant, le carrosse, c'est une citrouille. Et, ah ouais, tu crois que c'est une citrouille? Ah oui. Et puis en fait, vous apercevez que tout le monde connaît très très bien Cendrillon. Et puis après, vous leur proposez de flinguer tous ces contes, enfin pas de les flinguer, mais en tout cas d'en faire leur matière à eux, de s'en emparer, d'utiliser tout ce qu'on leur a transmis, parce que c'est ça aussi l'âge de l'adolescence, et oh là là, tous ces vieux là, ils veulent nous dire comment il faut faire, mais nous on sait comment faire, voilà, il y a aussi cette révolte, et j'avais envie de travailler avec des matières, oui, ancestrales, qu'on peut chambouler, on peut y mettre ce qu'on veut, de la modernité, on peut les traiter façon western, mais on peut les traiter façon guerre des étoiles, on peut traiter, voilà, qu'ils écrivent eux-mêmes, qu'ils et elles écrivent eux-mêmes leurs contes, et qui nous les repropose en fin d'atelier. Alors là, on a fait des petits ateliers à chaque fois, avec chaque classe, c'était des ateliers de 4 heures, mais ça s'est super bien passé, aucun ne s'est défaussé, ils ont été de plus en plus inventifs au fur et à mesure des jours, donc à chaque fois, on n'avait que 4 heures avec chaque classe, et ils se sont lancés dans des imaginations, il y avait des trucs spatio-temporels qui se passaient, il y a eu des moments de danse, parce qu'après, dans la restitution des contes, puisqu'ils devaient nous présenter, à la fin, on les filmait, pour pouvoir leur rendre ensuite, leur faire un petit DVD pour qu'ils voient ce qu'ils avaient fait en 4 heures, et ils avaient été hyper inventives, des gamins qui n'ont jamais fait de théâtre et qui ont écrit leurs propres contes, et certains ont mis des chansons, certains ont fait de la danse à l'intérieur. Enfin, en 4 heures, c'était incroyable ce que ces gamins nous ont donné. Et je me dis, mais ouais, vraiment, faut sortir des clichés. Tous les gamins ont mais des pépites d'or à l'intérieur de faut juste. Leur dire ouais c'est vrai, ça peut être un truc de vieux con les contes, c'est pas grave, on va se marrer avec. Voilà, moi je suis pas prof, donc je suis pas là pour qu'on... Allez, allons-y, faisons tout péter, on va bien voir, il va en ressortir quelque chose. Et vous vous rendez compte que ce qui en ressort, dedans il y a des préoccupations adolescentes, il y a bien sûr qu'il y a des grosses blagues, bien sûr, mais ça sert à ça aussi d'écrire ses propres histoires. Et puis ça sert surtout à travailler en petits groupes avec des gens de la classe avec qui on ne travaillerait pas habituellement, et autour de sujets, parce que nous évidemment on avait des consignes du type vous faites ce que vous voulez, votre héros c'est qui vous voulez, c'est un garçon, une fille, mais ça peut être une fleur, un arbre, un brin d'herbe, une poubelle, un banc, c'est ce que vous voulez, votre héros. Par contre, il y a une consigne, alors ça vous ne pouvez pas y couper, il est super amoureux ou elle est super amoureuse, et ça il faut qu'on le sorte dans votre compte à un moment donné, voilà. Et vraiment, ils ont respecté à chaque fois ces consignes en leur disant en même temps, vous inventez ce que vous voulez. Et donc, c'était hyper free, enfin hyper open sur la proposition, et en même temps, avec quand même des consignes pour... Et vraiment, on a été... avec José, on anime ces ateliers avec José, on a été sur le cul, on les a trouvés... Super, ces mômes, super, voilà. Et je ne doute pas une seconde que n'importe quel adolescent a des trésors comme ça, et puis des envies de franchir des caps, des ridicules, ça j'en suis persuadée, autour d'un sujet comme celui-là particulièrement.
Le Petit Chaton Rouge par la compagnie des animaux du zoo, c'est vendredi 11 mai à 21h au Petit Carré d'Art de Sainte-Afrique.
CD de la semaine. Le CD de la semaine.
Le CD de la semaine.
Sur Radio Saint-Taf.
Je connais qu'un seul endroit, mais c'est pas fréquentable, où on joue ce blues-là, aussi noir que le sable. Je connais qu'une seule voix, qu'on est vraiment capable, c'est profond, plus fort que toi. Il n'est pas responsable. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un chant de poussière. Fallait partir, laisser là tes rêves et cette guerre, et l'or noir que tu n'as pas, pour tous ces mercenaires qui ont du sang sur les mains jusqu'au bout de l'enfer. Cours plus vite, ne dis rien sous cette pluie de fer. Tu n'en parles jamais, toi mon ami, mon frère. Qui as-tu perdu là-bas, couché dans la poussière?
Mon amour, Mwanamone, Sweya Wenza, Mwanamone.
Je veux du sang pour 20 carats, des diamants, des rivières, pétroliers du Panama. Vos dollars m'exaspèrent. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda. C'est un champ de poussière.
Mona, mona, monye, soya, wesa. Mona, mona, monye, mona, mona, akaluna, kumba. Mona, mona, monye, soya, wesa. Mona, 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 monye, sewe, akaluna, kumba.
Angola, un morceau extrait du nouvel album de Bonga, Ora Kota. Eh bien voilà, un petit blues saveur soleil noir concocté par Bonga et ce cher Bernard Les Bons Tuyaux. De quoi avancer sous le soleil rose en chaloupant gaiement. Tout cela sans même se douter qu'il y a là-dessous petit billet contestataire. Ora Kota, un CD de la semaine que vous pouvez aussi retrouver sur le site internet de Radio Sainte-Afrique.
Il sent bon le papier, tout chaud sorti des presses. C'est le progrès du Saint-Africain avec Benoît Garret. You can't hold me down.
Benoît, bonjour.
Bonjour.
Peut-on l'éviter, ne pas aborder ce sujet ? Non.
Et non.
Non, le progrès fait sa une sur la victoire de François Hollande, avec une belle photo de François Hollande, et puis à côté, une belle photo de M. Pantanella.
Voilà, pour analyser la victoire de François Hollande que tout le monde a suivi à la télé, et notamment avec son engagement, puisqu'il y a eu quand même plus de 80% de votants. Donc on a interviewé Pierre Pantanella, qui est le premier secrétaire de la Fédération Socialiste de l'Aveyron. Et il a mis en avant plein de chiffres, notamment la montée de la gauche en Aveyron. Et pour la troisième circonscription, celle qui nous intéresse nous à Sainte-Afrique, François Hollande totalise 53,32% des suffrages. Donc ce qui est quand même un bond en avant par rapport à son ex-compagne Ségolène Royal en 2007, qui avait seulement totalisé 48,45% des suffrages. Donc ça a une donnée intéressante pour les prochaines législatives. Et à Sainte-Afrique, pour la première fois à l'occasion d'une élection présidentielle, la gauche arrive en tête, et avec un score inédit et historique de plus de 59%. Voilà.
Alors qu'on quitte le monde de la politique, où les hommes sont surreprésentés, c'est un constat. N'est-ce pas, Benoît ?
Oui.
Et donc, vous avez eu la bonne idée, dans le progrès, de mettre trois jeunes femmes à l'honneur.
Voilà. Donc, le 24 avril, donc, il y a trois jeunes femmes qui ont reçu un grand prix de l'apprentissage qui a été remis par la région, donc, qui était sélectionné sur dossier, sur leur parcours étudiant et pré-professionnel, puisqu'elles sont en apprentissage. Et donc, on a décidé de les mettre en avant. Donc, ces trois jeunes filles qui représentent le Sud-Aveyron. Donc il y a Tiffaine Poisbeau qui a eu un grand prix agricole. Il y a Emeline Serin qui a eu un grand prix commerce et distribution. Et Lucie Bernat qui a eu un prix transport, conduite et manutention et magasinage. Donc voilà, c'était l'occasion de mettre un coup de zoom sur des femmes et sur trois jeunes femmes du Sud-Aveyron.
Un autre sujet un peu plus grave, dans le progrès, vous consacrez un article à la question de la greffe et du don d'organes.
Oui, donc la semaine dernière, il y a une entrevue qui a été organisée donc, à l'hôpital Émile Borel sur une question grave. Donc chaque année, donc par exemple en 2011, il y a eu plus de 16 000 personnes qui ont eu besoin d'une greffe de cœur, de poumon, de rein, de pancréas, de foie. Et il y en a seulement 5 000, un peu moins de 5 000 qui ont pu en bénéficier. Donc on voit bien qu'il y a une différence énorme entre le chiffre des gens qui attendent et de ceux qui pourraient donner. Et donc là, ils ont lancé un appel pour que le personnel médical soit un peu plus alerte pour identifier les donneurs potentiels et pour sauver des vies, parce qu'on sait très bien qu'une greffe, enfin c'est ce qui a été expliqué par les médecins, une greffe prolonge la vie des patients, des malades, et dans d'autres cas, les sauve tout simplement. Donc c'est quand même hyper important. Donc ils ont axé sur comment on sait qu'une personne qui vient d'avoir un grave accident, qui a un accident vasculaire cérébral, est susceptible de donner un organe pour sauver une vie. Donc après, il y a la question de l'éthique, évidemment, la question du choix de la personne, de son vivant, si elle était d'accord ou pas pour donner ses organes. Et c'est une question assez sensible, parce que à anticiper d'ailleurs, donc c'est ce qu'ils appelaient à faire, à ce que chaque personne dise à ses proches, famille ou amis très proches, leur souhait, si le jour où il leur arrivait quelque chose, ils étaient d'accord ou non pour donner un organe. Parce que pour prélever un organe sur une personne qui vient de décéder, on a très peu de temps, de quelques heures jusqu'à 24 heures pour certaines parties, quoi. Donc il faut se déterminer assez vite.
Et on termine avec une initiative intéressante, une bourse au matériel agricole.
Oui, alors ça, c'est un groupe donc, de cotisants de solidarité à la MSA et d'exploitants agricoles qui ont lancé ça en 2010. Donc ils se sont aperçus, donc eux, ils avaient du mal à s'installer. Ils avaient trouvé à peu près une terre, ce qui n'est pas non plus très évident. Mais après, il leur manquait les moyens, de l'argent pour avoir un petit matériel. Et ils se sont aperçus que dans plein de fermes dans le sud d'Aveyron, comme ça doit être partout le cas d'ailleurs, il y avait du matériel qui rouillait ou qui était abandonné, enfin mis au rebut parce que du nouveau matériel était arrivé. Donc ils ont lancé un appel aux agriculteurs pour leur donner ou leur vendre à petit prix ce matériel pour les aider à se lancer dans l'agriculture. Donc il y a des personnes qui sont dans des domaines assez divers, donc il y a des maraîchers, un apiculteur, quelqu'un qui élève des poules aussi, donc pour avoir des œufs, etc. Et cette initiative-là commence à prendre. Donc au départ, ils étaient 5, et à présent, ils ont monté l'association qui s'appelle Bourse au matériel agricole. Maintenant, ils sont 25, donc 15 porteurs de projets, et certains qui sont passés exploitants agricoles. Donc c'est plutôt une petite réussite, et maintenant, il faut qu'ils amplifient la démarche pour la faire connaître et aider des personnes qui ne s'en sortent pas en ce moment, quoi. Puis je trouve que c'est une idée innovante aussi, parce que comme on parle de développement durable, de chasse au gaspille, je trouve que c'est un beau pied de nez à la chasse au gaspille, justement, parce qu'on se sert de matériel qui, pour eux, est suffisant, parce que souvent, ils ont des surfaces inférieures à un hectare, donc ils n'ont pas besoin de grosses machines pour tirer quelque chose du sol.
Merci, Benoît.
Sacré bien, se tortiller les pâtes, se décomplexer en tant qu'enfant. chanson, par ça, et combien le 29, pour un bal pour nos bras.